personne, ben, je pense qu'on a tous des souvenirs de ça et on en a tous aussi par des expériences indirectes d'enfants qu'on peut voir rentrer dans le langage. On n'entre évidemment pas dans le langage par une série de règles, de syntaxe, de grammaire, en mémorisant les définitions des mots du dictionnaire, mais on rentre en produisant des sons, de douleur, de plaisir, en imitant les autres. Autrement dit, on entre dans le langage sur un mode corporel et non mental. Nous nous approprions, on va dire, progressivement les mots par leur son, par leur tonalité, par le plaisir de les rouler sous la langue, par le fait, en fait, d'habituer aussi, d'habiter nos corps. Et cette, alors encore une fois, là aussi, mais c'est pas dans mon propos, mais évidemment que cette définition phénoménologique du langage comme un langage incarné dans une expérience sensorielle, c'est pas non plus le premier à rentrer dedans, mais voilà, ce qui est important, c'est d'avoir en tête à quoi ça va lui servir ici de reprendre et de repartir de cette définition-là. À savoir que dire que le langage est d'abord expressif, c'est-à-dire aussi d'abord corporel, finalement que toutes les significations conventionnelles sont évidemment secondaires et dérivées, c'est renoncer à prétendre d'abord aussi que le langage serait une propriété exclusivement humaine. Au sens où, eh bien, si le langage est toujours d'abord en profondeur vibration physique et sensorielle, il ne peut être totalement séparé de l'expressivité des chants d'oiseaux, des hurlements de loups, du feulement des chats sauvages, puisque tous aussi, évidemment, résonnent de significations affectives. Autrement dit aussi, c'est un autre point de départ qui met, par lesquels ils rentrent dans cette question, que notre manière propre de parler, au lieu de la présenter comme quelque chose qui nous couperait fondamentalement de tout le reste du monde vivant, comme nous exceptant de ce monde-là, au contraire, pour lui, nous inscrit pleinement dans ce monde. Donc il n'élargit pas, vous l'entendez, la question du langage au monde, en essayant de trouver des manières dont on pourrait considérer de manière technique les autres parlent, mais il va réinscrire ou réencastrer notre propre langage au sein de l'ensemble du monde vivant. Alors, on peut se reposer la question. Pourquoi, si notre expérience finalement primordiale, on pourrait dire d'une certaine manière, il reprend plein d'autres, enfin, cette thèse-là qui est propre à plein d'autres, même si les autres pouvaient prendre sur un mode critique, notamment je pense à Freud évidemment, que si notre expérience primordiale est animiste, mais pour lui c'est pas du tout une critique, déjà c'est techniquement comme ça pour lui, mais c'est plutôt une bonne chose. Si notre expérience primordiale est animiste, si notre conscience sentante rend compte d'un monde animé, pourquoi et comment cette animation a disparu ? Pourquoi, comment comprendre, encore une fois, que notre propre monde nous paraisse inerte ? Pourquoi, si notre perception est participative, encore une fois, on ne fait pas, encore une fois, l'expérience du reste du monde comme animé et comme vivant ? Et pour cela, il va revenir, je vous le disais, comme tout à l'heure, il va s'intéresser donc à cette grande invention qui a été mille fois commentée dans tous les sens, de l'écriture alphabétique. Il va le reprendre, mais à sa façon. De quoi s'agit-il ? Eh bien, s'intéressant à cette question donc, du langage, il va revenir sur cet événement, je disais, qui est l'invention de l'écriture, ou plus exactement de l'innovation technique qu'a constitué l'alphabet. Encore une fois, vous l'avez compris, certainement pas pour en faire un point d'entrée dans l'histoire avec un grand H, voire le point d'origine de la civilisation, mais pour y trouver au contraire l'un des processus concrets, matériels, peut-être de rupture avec le monde sensible. Il part du point suivant. De même que le langage, donc cette expressivité signifiante des corps, des choses qui font signe vers les autres, etc., est finalement partagée par tous les vivants de ce monde animé, eh bien, l'écriture, comme système de signes, n'existe pas qu'au sein de la communauté humaine, mais à l'intérieur de tout le monde sensible. C'est des exemples que vous trouvez chez plein d'autres auteurs, que ce soit Peirce ou Eduardo Cohn, qui est un anthropologue brésilien qui a repris cette question-là aussi, trouver des signes aussi dans le monde vivant. Le vol changeant des oiseaux, les ailes comme ça, pardon, je prends le micro, vous avez compris. Les vols des oiseaux qui font un V, c'est un des signes qu'on peut trouver comme ça, la trace d'un animal, l'urine d'un renard, il y a des signes partout dans le monde qui sont autant, dit-il, finalement de signes, de sortes d'écriture cursive dans la chair du monde. Mais voilà, ces signes font sens entre des vivants humains, extra-humains, etc. Autrement dit aussi, c'est une façon de repartir de ce point de départ qui est que, de la même manière, les premiers systèmes d'écriture qui ne sont pas des écritures donc alphabétiques, sont évidemment intimement liées et entremêlées à ce monde extra-humain. Au sens, en quel sens ? Au sens notamment où il ne cesse de renvoyer par ce monde-là. Pensez à des hiéroglyphes, voilà, un dessin d'un animal, donc ce dessin-là va représenter cet animal-là. Donc il renvoie directement, cette écriture-là renvoie directement au monde sensible. Une image de nuage, une image d'animal, une image d'humain, etc. etc. C'est une forme d'imitation et de représentation du monde. Mais, nous dit-il aussi, et c'est là qu'on rentre dans sa proposition, c'est que ces systèmes d'écriture, certes, sont évidemment encore intimement liés et font partie de ce monde sensible, mais en même temps, vous l'avez entendu, ils opèrent déjà un premier déplacement de notre attention, de notre participation, à savoir qu'un premier déplacement du monde à ce qui le représente, à ses images. On est déjà, quand on regarde un hiéroglyphe, on n'est pas en train de regarder une vache, on est en train de regarder un dessin de vache. Quand on est en train de regarder un dessin ou une image d'un nuage, on n'est pas en train de regarder un nuage, on est déjà en train d'avoir déplacé notre participation avec le monde sur ces images-là, mais qui sont elles-mêmes qui renvoient encore au monde vivant et au monde sensible. Donc au lieu, encore une fois, d'être en relation directe avec les voix, les corps du monde dans lesquels je suis, cette écriture, notamment pictographique, déplace mon attention vers ces images, vers ces surfaces, mais qui font encore signe vers le monde vivant. Et c'est évidemment avec l'écriture alphabétique que la rupture se fait. Dans quel sens ? Au sens où, finalement, en concentrant notre attention, cette fois-ci, sur le son d'un nom et non sur la chose nommée, c'est cela qui creuse l'écart, voire qui rompt notre relation participative avec le monde sensible. Évidemment, au sens où, excepté certains mots ou certains sons qui sont encore en rapport direct avec ce qu'ils désignent, plouf, boum, bon, voilà, il y en a quelques-uns qui restent encore, ces fameuses onomatopées notamment. Ici, le son où on retrouve ce son du mot qui imite le son du monde, autrement dit, dans les autres cas, pour le coup, c'est plus du tout le cas, mais c'est caractère écrit que nous lisons, que je suis en train de lire ici pour vous raconter cette histoire-là, ne nous renvoie plus donc au phénomène sensible du monde, au monde sensible lui-même, mais aux gestes que doit accomplir ma bouche pour pouvoir les prononcer. Hein, c'est-à-dire bete, que, geste, etc., etc. C'est une sorte de relecture phénoménologique ici et sensible du langage symbolique. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il nous dit que notre attention, notre participation sensorielle est cette fois totalement déplacée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ici d'aller-retour entre le signe et le monde, comme il pouvait y avoir encore quand c'était des écritures pictographiques, mais circularité entre le signe symbolique, le signe symbolique, voilà, signe, le mot symbolique, avec entre ce signe, toutes les petites lettres, tous les petits caractères noirs que j'ai écrits qui constituent le mot signe que je viens de vous lire, et son expression vocale, c'est-à-dire ici que le son des mots ne renvoie qu'aux mots eux-mêmes. À l'intérieur d'un langage symbolique et non au monde lui-même. Évidemment, c'est pas la peine de. Si, c'est important d'insister, mais évidemment que c'est un processus extrêmement lent qui s'est fait sur des siècles, notamment que ça s'est pas fait là, enfin que là, ça n'avait quasiment pas de sens de parler de ça, même avant au moins le 15e siècle et l'invention de l'imprimerie, et puis encore plus peut-être l'invention de l'école obligatoire. Donc ça prend. Enfin, c'est toute notre histoire en fait qui est prise ici. En réalité, en compte. Il rappelle que notamment aussi même dans l'alphabet, dans l'écriture alphabétique, les premières lettres renvoyaient encore au monde. Vous vous souvenez, vous les connaissez tous, le A qui au départ, vous voyez le A en inversé, c'était la tête d'un bœuf. Le M, c'était d'abord le signe d'une vague, donc il renvoyait à la mer. Donc il y avait encore des liens matériels, visuels avec le monde sensible, mais qui au fur et à mesure, le M, enfin la vague est devenue un M, le A est devenu un A, bon, donc voilà, on les a perdus. Ils disent voilà, c'était encore des vestiges de ce lien du langage avec le monde sensible, mais finalement voilà, on peut les retrouver, et c'est un plaisir, mais c'est le lien est rompu. Or quel changement, et c'est le dernier point sur lequel je vais m'arrêter, mais quel changement l'introduction puis finalement la propagation, encore une fois, de cette pratique de l'écriture symbolique avec l'invention de l'imprimerie et tout notre nouveau système social et scolaire, a eu sur notre rapport au monde, puisque c'est ça, évidemment, qui l'intéresse, c'est-à-dire sur nos corps et sur nos interactions avec le monde vivant. Il le présente, on va dire, de cette manière, de la manière suivante, notamment que nos yeux qui convergent ici vers une marque visible, vers une série de marques, hein, non pas vers une série d'images, mais vers une série de sons, hein, que les lettres, les petites lettres, les petits caractères phonétiques sont aussi bien lus, nous dit-il, c'est en référence à nos, on va dire, nos compétences synesthésiques, aussi bien par nos yeux que par nos oreilles, on entend ce qu'on lit, hein. Et il rappelle, vous souvenez tous, que ce n'est qu'après le XIIe siècle, je crois, que la lecture silencieuse est apparue lorsque les copistes ont introduit des blancs entre les mots. Mais qu'avant, on lisait à voix haute pour pouvoir comprendre ce qu'on lisait, sinon on n'avait aucune idée de ce qui avait marqué. Et que c'est seulement depuis le XIIe siècle, finalement, et jusqu'à nos jours, que lire, c'est écouter, finalement, en soi, l'écho intérieur de mots qui autrefois étaient prononcés. Et vous, enfin, tu as un exemple en tête, vous voyez des enfants qui donc ne savent pas lire, enfin c'est tautologique puisqu'enfant ça veut dire personne qui ne sait pas lire, hein, qui imitent des adultes qui savent lire. Ils se mettent devant une feuille comme ça, et ils disent, moi aussi je lis, ils regardent les gens qui ne parlent pas devant une feuille, et ils disent mais enfin, c'est très étrange, c'est très exotique pour eux. C'est un vrai mystère en réalité, ils essayent de retrouver voilà, cette pratique, l'étrangeté de cette pratique-là qui reste de ces milliers de gens qui restent sans bouger devant des pages avec des petits caractères noirs et qui sont en contact avec elles pendant des heures. Bon. Et alors, Abraham ajoute encore un dernier point, j'ai presque fini. Hein. À propos de cette expérience phénoménologique de lecture, à savoir que, je voulais juste insister dessus parce que c'est celle qui est propre à cette expérience de lecture, que parmi nos multiples perceptions, notamment nos perceptions donc, synesthésiques, celles qui articulent différents sens, hein, nous sommes en relation de manière tout à fait spécifique à partir de cette conjonction sensorielle de la vision et de l'audition, hein, et qui lui semble, à son avis, tout à fait fondamentale et particulière, et que c'est les deux entrecroisés, la vue et l'ouïe, qui nous permettent, enfin, ou qui permettent à ce corps de lire, mais aussi c'est celui, nous rappelle-t-il, qui nous permet de nous tenir à distance. Qui nous ont toujours, ce sont les sens, parmi tous les sens que nous avons, ce sont les deux sens qui nous permettent de nous tenir à distance. On ne touche pas, on ne goûte pas, on est à distance déjà de ce avec quoi l'on est en interaction perceptive. C'est, dit-il, cette interaction-là, c'est celle, dit-il, par laquelle passent tous les chasseurs, dont on parle notamment Cone, hein, qui est, quand on chasse, de à la fois regarder et écouter, et que le regard peut être changé en fonction de l'écoute, ou que l'écoute va nous faire voir des choses que l'on ne voyait pas si on n'avait pas entendu, et inversement. Et que c'est cette conjonction-là, oui et vu, que nous expérimentons dans la lecture. C'est-à-dire que, encore une fois, pour nous, vous l'avez compris, en fait, le point qu'il fait ici, pour nous, c'est-à-dire pour nous, pour qui le monde a cessé d'être animé, hein, nous faisons cette expérience perceptuelle avec notre alphabet. Hein. C'est-à-dire que, vous vous souvenez que la question était de savoir comment, alors que nous ne pouvons pas suspendre le flux des participations, vous vous souvenez, vous avez dit, je vous dis ça, mais vous le notez pour plus tard, hein, alors que nous ne pouvons pas physiquement, matériellement, phénoménologiquement, suspendre le flux de nos participations, qu'en faveur d'autres participations, qu'avons-nous fait alors de notre lien perceptif au monde, si nous ne sommes plus en interaction avec le monde vivant ? Nous ne sommes plus en interaction avec le monde vivant animé, et en même temps, on ne peut pas suspendre ce flux de participation. Où est-il passé ? Qu'en avons-nous fait ? Et évidemment, la réponse d'Abraham se trouve ici, pour lui, dans notre relation participative avec notre écriture, avec l'alphabet. À savoir que lorsque nous apprenons à lire, dit-il, nous devons rompre la participation de nos yeux et de nos oreilles avec notre environnement pour la concentrer, c'est-à-dire pour la reporter sur ces petits caractères. Concentre-toi ! Lis, concentre-toi ! Mais c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que notre participation à un phénomène exclut notre participation à d'autres phénomènes. Je ne peux pas, dans le sens où je ne peux pas être en relation en tout cas profonde avec quelque chose qui mobilise mes sens, mon corps, sans renoncer pendant ce temps à être en relation avec d'autres choses qui, elles, restent finalement en arrière-plan, finalement inanimées. Et là, je suis, pour lui, cette grande invention de l'écriture nous a mis dans une relation participative tout à fait profonde et particulière, par nos yeux et par nos oreilles, avec ces petites marques, ces petits signes noirs écrits sur une page. Et il a cette très très jolie phrase dans son livre que je vais vous citer. De même qu'une vieille femme Zuni, c'est une population autochtone du Nouveau-Mexique, de même qu'une vieille femme Zuni concentre son regard sur un cactus et entend le cactus se mettre à parler, de même, nous concentrons notre regard sur ces marques imprimées et immédiatement, nous entendons des voix. Et ça apprend au sens littéral. Il n'y a rien de métaphorique là-dedans. C'est-à-dire, nous entendons des mots qui nous parlent, nous avons des visions, nous faisons l'expérience d'autres vies. De même que les animaux, les plantes, les rivières inanimées aujourd'hui parlaient à nos ancêtres, les lettres inertes sur une page nous parlent. Je vais terminer rapidement, mais vous l'avez compris que la proposition qu'il fait dans ce très très beau texte, et je vous en ai donné vraiment malheureusement qu'un fil extrêmement très rugueux par rapport à c'est un texte très très beau avec plein d'exemples. L'expérience centrale finalement pour lui dans notre civilisation de l'écrit, qui est la lecture, c'est une forme d'animisme. Nous sommes dans une forme d'animisme. Alors évidemment une forme d'animisme tout à fait particulière, à savoir un animisme autoréflexif. Pas du tout avec le monde, mais c'est avec nous-mêmes et avec nos propres lettres, nos propres écritures, qui nous coupent du monde vivant. Que nous ne voyons, on pourrait dire littéralement plus, que nous n'entendons littéralement plus. Mais c'est aussi un animisme tout à fait particulier, parce que c'est un animisme qui s'ignore, puisque nous, on est persuadés qu'on n'est plus du tout animiste. Enfin, nous, on est naturaliste. On est moderne. Autrement dit, là, on pourrait dire, la thèse, la proposition, en tout cas, et la thèse d'Abraham qui défend ici, c'est le fait que la propagation de l'écriture phonétique et surtout de sa pratique dans la lecture, parce que c'est le point principal, dans le monde, nous a fait passer d'un monde animé à un autre. Donc c'est tout à fait différent d'autres propositions qui sont faites habituellement, c'est-à-dire avec, encore une fois, le déplacement, de l'attention, de la participation au monde, etc. Eh bien, les pierres se sont tues, les arbres sont devenus silencieux, les animaux sont devenus stupides. Et c'est notre, dit-il, notre union finalement toujours plus forte à nos propres signes qui nous a isolés du monde sentant, qui nous a refermés sur nous-mêmes en court-circuitant ce lien de réciprocité sensorielle entre nos corps sentants et le monde sensible.